Chacun appelle barbare ce qui ne relève pas de son usage, écrit Monckton. Aucune culture n'est supérieure à une autre parce que toutes les cultures se valent. Retenez-le, auditeurs et auditrices de la 105.5 MHz. Ce générique ne trompe pas, indicatif Interligne. Interligne prend donc place une fois encore sur les ondes de Radio Océrie. Les lignes d'Interligne sont des lignes sous des lignes, mais toujours visibles quand il s'agit d'Interligne. Interne, mais visible aux yeux de tous. Interligne, madame, monsieur, ce sont les cultures des différents peuples, ce sont les faits marquants de la société et le quotidien des populations. Interligne, ces soirs au village, tape à l'œil et vide de ton sac. Bienvenue à tous. Interligne, madame, monsieur, dans ces lignes, aujourd'hui, nous conduit dans le mont Mandara, chez le peuple Mandara, justement. Avec madame Labanne, nous allons parler de la culture Mandara. Dans Tape à l'œil, nous nous intéressons aux préférences en matière de taille et dans Vie de ton sac, nous nous penchons au travail des enfants. Comme annoncé, soir au village de ce jour nous conduit au mont Mandara chez le peuple Mandara, un peuple localisé et localisable dans les villages comme Mora, Mémé et bien d'autres. Nous avons rencontré madame Labanne, digne fille de cette localité. Avec elle, nous parlons des naissances, des mariages et rites d'initiation chez le peuple Mandara. Écoutons cet entretien. Madame Labanne, merci de répondre à nos questions.
C'est un plaisir.
Dites-nous, qui est le peuple Mandara?
Le peuple Mandara, communément connu sous le nom de peuple de la montagne, en fait a une histoire un peu particulière parce que depuis la vague de la venue depuis le Soudan, cette peuple s'est installé sur la plaine. Ensuite, suite à l'arrivée des colons et des guerres qui se sont éclatées par besoin de sécurité et tout, ont donc monté sur la montagne et puis pour se réfugier. Et c'est de là que ce peuple s'est installé et s'est constitué depuis des années et des années. Et voilà.
Nous voulons nous intéresser dans un premier temps aux naissances en pays Mandara. Quelle est la place que vous accordez à un nouveau-né?
À la naissance de l'enfant, il y a des rites, le comportement de la maman, son alimentation. Elle doit adopter vraiment des comportements spécifiques, une alimentation spécifique, notamment de la bouillie à base du sorgho et du lait, et aussi les pâtes de bœuf, du bouillon à base des pâtes de bœuf, et elle doit constamment boire de l'eau chaude, se laver matin et soir avec vraiment une eau très très chaude, environ une température de 90 degrés à peu près. Donc il y a une femme spécifique qui va venir assister et tout ça, à se laver, voilà.
À quel moment donne-t-on le nom à l'enfant?
Généralement, c'est une semaine après l'accouchement. Après l'accouchement, on compte 7 jours, le 8e jour, bon, on organise dans le baptême.
Et comment ça se passe le baptême?
Pour le baptême, ça se passe le matin. Dehors, bon, les hommes se réunissent. À l'intérieur, il y a des femmes. Il est prévu d'égorger un bélier. Dès que le père a décidé du nom, il envoie donc un représentant qui va annoncer le nom à une femme aussi. Et cette femme va donc souffler le nom dans l'oreille du bébé. Et puis on fait des youyou et puis voilà.
Et en grandissant, quel rite doit-il suivre pour marquer sa masculinité ou alors sa féminité?
En réalité, il y a deux événements. Il y a la circoncision, mmh. Il y a aussi le renforcement des capacités de l'homme. On utilise le terme gavoi. Donc, lors de la circoncision, c'est pendant une période spécifique, un âge généralement descend de 10 ans, mmh. entre 5 et 7 ans la plupart. Donc, après circoncision, lors du processus de guérison, le jeune garçon boit de la bouillie à base du sorgho avec du natron. Donc, pour un peu faciliter le processus de guérison, et aussi du bouillon à base du poulet, généralement. Après ça, et quand c'est en groupe, il y a donc un dernier rite de clôture d'activité qu'on appelle Kachia. Donc, il y a tout un événement autour de ce rite.
Toute une cérémonie.
Toute une cérémonie organisée, oui. Mm-hmm.
Lors de cette initiation, où dort le jeune garçon? Dans sa maison familiale ou en brousse?
Oui, si ça a été fait en famille, ça sera en famille. Et si c'est à l'extérieur, en groupe, comme je l'ai dit, il y a une zone bien aménagée où ils sont tous là-bas. Bon, c'est là-bas qu'ils dorment jusqu'à ce que le jeune garçon guérisse.
Qu'en est-il de l'initiation de la jeune fille?
Pour la jeune fille, l'initiation, une initiation particulière, bon, il n'y en a pas. Juste que, bon, auprès de la maman, elle apprend les travaux ménagers, certaines activités. Mmh. C'est sa part d'initiation.
Vous parliez tout à l'heure du rite d'initiation et du rite de renforcement. Qu'en est-il des autres rites présents au village Mandara?
De façon générale, tout un rite autour du décès. Mmh. S'agissant de ceux qui sont au niveau de la plaine, aujourd'hui, au fil du temps, ça a été altéré par la religion, comme ça ne cadre pas avec certaines activités de la religion et tout. Là, donc, pour ceux qui sont sur la montagne, il y a une semaine de deuil avant d'enterrer le corps. Donc pendant une semaine, on fait dans chaque soir, coucher du soleil, il y a ce qu'on appelle, on fait des activités folkloriques telles que des danses, le tam-tam, il y a aussi du boisson, le terme utilisé en mandara c'est mbala, c'est notamment utilisé aussi souvent dans certains langues, on parle de bilbili. Mm-hmm. Donc ils boivent ça, les femmes préparent. Et quand les femmes viennent, elles viennent avec une certaine quantité de mille et viennent verser, chacun vient. Les une semaine permettront donc à ceux qui sont aussi loin de venir assister aux deuil. Après une semaine environ, on ensevelit le corps qui est placé. Après, on amène au cimetière l'enterrement. Lors de l'enterrement, on enterre le corps avec tous ses biens, de l'argent, ses vêtements, oui. Avant, on l'enterrait carrément, si c'était une autorité, on l'enterrait carrément avec des membres de la société. Donc, c'est un peu comme ses gardiens. Mais de nos jours, il n'y a plus trop ça. Ça a été un peu banni. On envoie juste le corps avec de la nourriture. Bon, ils disent qu'il aura besoin de manger, mm-hmm. de l'argent. Il aura besoin de cet argent, des vêtements, toutes ces affaires, en fait. Et dès qu'on enterre le corps, il y a donc, on place un bélier. Tout vivant, chacun vient couper une partie jusqu'à ce que le bélier meure et c'est fini.
Le peuple Mandara est en majorité un peuple de montagnes. Alors dites-nous, quelle est la symbolique des montagnes pour ce peuple-là?
Comme nous l'avons tantôt dit, ces peuples se sont réfugiés dans la montagne lors des guerres. Donc la montagne déjà c'est une position stratégique en hauteur qui permettra un peu d'avoir une vision en bas et aussi d'empêcher ceux qui nous veulent par exemple du mal de monter et tout. Et au fil du temps, c'est devenu leur lieu de vie, c'est qu'ils se sont habitués. Donc c'est un peu ça, il y a la culture tout autour de la montagne, des célébrations, une position stratégique, un milieu de vie comme tout autre. Voilà, en quelque sorte.
Parlons à présent des soirs en village Mandara. Comment est-ce que ça se passe? Comment c'est organisé? Qu'est-ce qui se fait et se dit autour du feu ou au clair de lune?
Chez les Mandara, c'est beaucoup plus au clair de lune, du fait du climat qui est déjà chaud. Mais en période de froid, on allume un peu du feu, mais c'est toujours au clair de lune. Où les grandes personnes sont assises, il y a des enfants qui jouent et lorsqu'ils sont fatigués, bon, ils viennent autour des grandes personnes, ils commencent à raconter, à faire des contes, des comptines et tout. Et on appelle ça généralement Narwanza, donc une grande personne prend le temps de raconter des histoires anciennes, des histoires vraiment éblouissantes qui attirent. Et souvent aussi c'est éducatif pour l'enfant. Et permettre de transmettre donc de génération en génération l'histoire du peuple.
Vous parliez tout à l'heure du rite d'initiation. Alors, quels sont les autres rites présents chez le peuple Mandara?
Parlant des rites d'initiation, il y a deux rites, comme je l'ai cité. Il y a la circoncision et aussi le renforcement des capacités de l'homme. La circoncision, c'est tout un processus au cours duquel il y a la période de guérison où le jeune garçon a une alimentation spécifique, notamment de la bouillie à base de la farine du sorgho et du natron, et aussi du bouillon de poulet. Il y a également, à la fin de sa guérison, il y a une cérémonie appelée Katia. Donc, durant cette cérémonie, l'enfant sort donc du processus de guérison et puis ça marque la fin de ce processus-là. Autour de ce rite, il y a donc la famille, on coule les beaux avis aux jeunes garçons, des beaux avis. Et puis, on fait des activités folkloriques, du tam-tam, du fonfa et tout ça. Et aussi, les membres de la famille viennent avec un petit cadeau pour les jeunes garçons. Pour le rite de renforcement de capacité de l'homme, bon, ça se passe avec soit en groupe, soit à distance. Si c'est nécessaire, il se déplace pendant une période chez l'initiateur. C'est un marabout qui fait ça spécifiquement. Bon, selon ce qu'il doit faire, bon. Les déroulements, seul le marabout en a connaissance et aussi le jeune garçon qui en a connaissance de ce qui se passe exactement, puisque c'est un peu secret, un peu ça.
Et comment ça s'appelle en mandara?
On appelle ça gavwa, donc renforcer, c'est une protection en fait, une protection contre peut-être des choses mystiques, comme des attaques, de la sorcellerie, c'est un peu ça.
Dites-nous à présent, quels sont les différents mets traditionnels du mandara?
En ce qui concerne les mets, il y en a une multitude. Bon, on va s'attarder sur deux, notamment la sauce de ougla. C'est un peu comme le baobab, les feuilles de baobab. Ce sont des feuilles qu'on écrase vraiment de façon très fine, finement. Et puis, pour la préparation, ça ne demande pas beaucoup d'ingrédients. Bon, un peu d'oignon, un peu, s'il y en a, de la viande, généralement avec de la viande séchée. Donc, et puis du haricot blanc. Et qu'on fait vraiment bouillir jusqu'à ce que le haricot cuit et la viande cuise. Et puis, on ajoute un peu de sel et du piment. Quand on a fini de vraiment cuire le haricot, on fait descendre donc la marmite et puis on commence donc à mettre la poudre de ougla. Quand on tourne, dès qu'on finit, on ferme. On ne remet plus sur le feu, on laisse. Et puis après un certain temps, ça va donc s'homogénéiser seul. Parce que si on remet sur le feu, ça ne sera plus gluant, ça va changer de texture et de goût. Ça va devenir amer. Maintenant, pour l'autre sauce que j'aime particulièrement, le warba. Warba, on mélange le foléré, les feuilles de foléré avec cette sauce. Et cette sauce-là plutôt requiert beaucoup de temps. Nos grands-parents, eux, prenaient minimum 16 heures de temps pour la cuisson, minimum. Moi, je me souviens, ma grand-mère est passée toute pour demain, elle prépare aujourd'hui, ça passe sur le temps, sur le charbon. Donc, on découpe juste les feuilles de warba, qu'on mélange avec un peu d'oignon également. Et généralement, c'est aussi avec la viande séchée ou bien avec du poisson sec et tout. Et on ne met pas d'huile, et un peu de sel. À la fin, quand ça sera bien cuit, on ajoute un peu de feuilles de foliérée qui est un peu acide et un peu de pâte d'arachide et c'est prêt. C'est franchement délicieux. Voilà.
Quelle est l'organisation primaire au niveau des familles Mandara?
Concernant les activités primaires, l'homme, c'est à la recherche des subsistances. Et l'activité principale, c'est notamment l'agriculture. Pendant une saison, pendant la saison pluvieuse, on s'organise à faire le champ, à aménager le champ et à cultiver le mil. Et entre-temps, la femme, elle fait ses petits légumes autour du mil de l'homme. Elle surveille, les deux surveillent en même temps. Avant de partir, comme c'est à longue distance, ils font leur repas de la journée, ils partent avec. Ils passent la journée au champ en train de labourer, d'arranger, d'enlever les mauvaises herbes jusqu'à la fin de la culture. Mmh. Et à la fin de la récolte, les légumes sont destinés obligatoirement à la femme, c'est pour la femme. Et le mil, c'est pour l'homme qui va garder dans le grenier. C'est la femme qui part chercher l'eau au puits, c'est la femme qui prépare en cuisine, c'est l'homme qui fend le bois, et c'est les enfants qui partent au moulin, s'il y a le moulin pour écraser le mil. Mm-hmm. Où la femme avant était obligée d'écraser plutôt sur la pierre, avec la pierre, c'était la femme qui faisait ça. Elle partait chercher l'eau, elle fait tous les travaux de ménage en fait, elles sont effectuées par la femme.
Avec le temps, la révolution industrielle et autres, est-ce que ces familles ont toujours gardé cette même organisation?
Oui, ceux de la montagne, je peux dire qu'ils ont vraiment gardé les mêmes habitudes. Hormis en semaine, les dimanches et notamment le jour du marché, ils descendent quand même pour écraser peut-être le mil, acheter quelques provisions telles que le savon. Avec la révolution, le savon et certaines denrées industrielles qui ont vu le jour. Mais vraiment, les activités traditionnelles sont maintenues. Ils ont la même alimentation et tout ça.
Parlons à présent du mariage. Comment est-ce que ça se passe? Comment dote-t-on une fille Mandara?
Fille Mandara, bon, pour la dot de la fille Mandara, pour celle de la montagne, c'est un peu différent de ceux au niveau de la plaine. Au niveau donc de la montagne, dès que le jeune, lors des activités sociales, telles que les autres mariages, les décès, le jeune homme remarque donc la fille, il s'intéresse à la fille, il essaie un peu d'aborder la fille, et puis après on voit donc les parents. Dès que les parents sont d'accord, on apporte donc la dot. Dès qu'on apporte la dot constituée notamment de la chèvre, des chèvres, un certain nombre, selon ce que la famille a imposé, du mil, quelques provisions, du parfum, du savon, de l'huile, du pain, dès que c'est bon, la femme est déjà dotée. Lorsque la jeune fille est déjà dotée, elle ignore quand même la date du mariage. Il y a maintenant une saison qu'on appelle la saison du mariage et maintenant le jeune homme s'entend avec ses amis. Et lorsque la jeune fille sort pour ses activités journalières, elle ignore carrément. Dès que le jeune homme s'entend avec ses amis, on vient donc prendre la fille. Et c'est comme ça qu'elle est déjà partie en mariage officiellement. On va informer la fille, la famille qu'elle a été prise et puis... C'est comme ça. Au niveau de la plaine, c'est un peu plus différent. Il y a une interaction. Le jeune homme essaie également d'aborder la fille. S'il est intéressé par la fille, lors des fêtes, il fait dans un petit paquet constitué de pain, de savon, pour toquer donc à la porte. Il parle donc toquer. Donc s'ils sont d'accord, les parents du garçon vont venir donc faire la demande. La demande, ça sera au niveau du père de la fille, si son père est vivant. Si son père n'est pas vivant, c'est du côté paternel, ses oncles paternels. S'ils ne sont pas là, ce sont ses oncles maternels. S'il n'y a même pas sa famille, il y a le chef le chef ou même le sultan peut représenter dans la vie, on fait la demande. S'ils sont d'accord, ils vont donc penser à fixer le jour de la dot. Mais ici, la dot est en termes d'argent. On amène donc une certaine somme, on dote la fille. Dès qu'on dote la fille, après, on organise donc le mariage qui est vraiment organisé. On fixe une date. Ça se passe environ en trois jours minimum. Mais ça part presque à une semaine. On fixe une date. Il y a le jour où la fille fait l'enterrement de jeune fille, entre guillemets, je peux utiliser ce terme, où la fille dit au revoir avec ses amis, elle célèbre et tout. Le matin, c'est la dot. C'est le mariage proprement dit. Donc, il y a des marabouts, des imams qui vont se réunir du côté de l'homme et du côté de la femme. Deux membres de la famille de l'homme vont donc minimum venir donc prendre la fille. On fait le mariage. Après ça, on amène directement la fille dans son foyer. Dans la soirée, vers 15h, il y aura donc des activités de danse, de tam-tam, de tout ça. Et puis voilà.
Aujourd'hui, si vous avez l'occasion de vous adresser à la communauté Mandara, d'ailleurs, vous avez cette occasion-là de laisser un message à la large communauté Mandara qui nous écoute.
Chagrab mama ratran margam de kni mdkni tahayn haya tavant daraja.
Madame Laban, tous nos remerciements d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Ce fut un plaisir. Je vous remercie également de m'avoir permis de porter la voix et de montrer un peu comment s'organise la société, le peuple Mandara.
Entre taille élancée, moyenne ou courte, c'est chacun qui se fait une préférence et ce, pour des raisons diverses et justifiées. Selon plusieurs avis, les personnes de petite taille sont des sacs à problèmes et des personnes très compliquées. Pour d'autres, le plus important n'est ni la silhouette, encore moins la taille. Le caractère moral paraît donc primordial. Écoutons quelques avis de ceux qui nous avons tendu notre micro.
Bon, en préférence des gars, qu'ils soient courts, bien géants et lancés, peu importe. Moi, je préfère des gars géants qui me dépassent en taille. Parce que moi-même, je suis d'abord géante. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit.
Moi, d'abord, je suis pas géante. Je suis un peu, j'ai la taille. Bon, ce qui fait que moi, j'apprécie beaucoup plus les filles qui sont un peu géante de taille. Bon, une fille, mais pas qui me dépasse en taille quand même. Bon, une fille qui peut m'arriver peut-être au niveau des épaules. Oui, comme ça, quand vous marchez ensemble, tu vois, quand vous arrêtez les mains ou quoi, ça passe. Mais par contre, quand peut-être je suis avec une fille très courte, bon, c'est le décor n'est pas du tout bon. Et il faut aussi dire, la plupart des filles courtes, là, elles sont trop capricieuses et ont un peu trop de problèmes. Et aussi, si tu avais une fille qui te dépasse aussi trop en taille, c'est pas du tout bon en tant qu'homme quand même. Bon, pour ma part, je préfère les filles géantes et un peu mannequins, quoi.
En matière de gars géants courts, je préfère un gars qui est géant, puisque moi, d'abord, je suis géante. Je peux pas faire que je suis là, géant, je suis avec un gars court. Imaginez un peu vous, mon sort. C'est vrai que ça serait romantique, mais pas comme un gars baraqué, le jadon. Tu vas pouvoir tomber, il va te porter. Mais celui qui est court, maman, il va te porter comment? C'est toi qui vas lui porter ou bien celui qui va te porter? Imagine un peu, j'ai embrassé la mariée. Et il monte sur la chaise ou bien c'est toi qui dois monter sur la chaise. Donc vous voyez, moi, sans vous mentir, j'aime un gars qui est un peu lancé, qui me dépasse même plus que moi. Oui, là c'est bon, j'adore ça.
Étant moi-même grand de taille, je préfère une fille élancée, mais il faut pas que sa taille dépasse quand même la mienne. J'aime pas les filles courtes parce que je trouve ça bizarre de marcher avec elles, avec ma taille. Donc je préfère les filles élancées parce que les filles élancées, comme on le dit très souvent dans les réseaux sociaux, elles ont de bonnes qualités morales alors que les filles courtes sont des sacs à problème. Donc je les évite, je préfère les filles grandes de taille. Parce que là, même si on se retrouve ensemble comme partenaire, je n'ai pas à être là chaque fois qu'il veut décrocher un truc dans l'armoire ou alors un truc posé un peu plus haut. Donc elle-même, elle peut se débrouiller. Donc voilà, je crois que je préfère une fille élancée, mais pas que sa taille dépasse la mienne. Il faut qu'elle soit un petit peu en dessous de la mienne.
Si m'est demandé de choisir entre une fille moyenne ou courte, élancée, je préférerais celle qui a une taille moyenne. Bien que ces filles se valent toutes, mais pour moi personnellement, je préfère une fille qui a une taille moyenne, car moi aussi j'ai une taille moyenne.
Compris, auditeurs et auditrices, à chacun ses préférences, l'aspect taille est un point relatif. Ils ont généralement moins de 14 ans, mais les travaux auxquels sont confrontés nombre d'enfants restent déplorables. Pourtant, la loi camerounaise est claire là-dessus et condamne fermement le travail des enfants de moins de 14 ans. Mais alors, il n'est pas rare de voir des enfants tout petits portant des charges parfois plus lourdes que leur poids à sillonner les rues, les coins et recoins de la rue. Se faisant priver de leur heure de sommeil par ce que servant d'assistant dans des restaurants, boutiques et autres buvettes de la place. Écoutons quelques-uns de ces enfants.
Moi, je m'appelle Raphaëlle, élève en classe de 5e. J'ai 12 ans. Je vends les gâteaux et les yaourts pendant les week-ends et les jours de classe. Je ne travaille pas.
Driss Maliki, j'ai 13 ans, j'habite chez ma tante. Comme c'est moi le plus petit, je l'aide à vendre le bouillon. Chaque soir, parfois, on vend de 18h à 21h. Et s'il n'y a pas les clients, on vend de 18h à 22h, à 23h.
Indiamra, c'est Miloya à l'école. Je suis en train de se faire en Sahel.
Je
m'appelle Tafnakota Donovan. Je suis élève en classe de 6e. J'ai 13 ans. Chaque jour, j'aide ma tante à vendre le coquille à partir de 18h jusqu'à 22h. Et souvent, quand il n'y a pas le marché, ça part jusqu'à 23h. Et c'est vraiment très pénible le travail. Souvent, quand je rentre de l'école, elle m'envoie souvent écraser le haricot blanc afin de préparer le coquille et faire les travaux. Et puis à 18 ans, on s'apprête encore pour faire le même travail chaque jour.
Indiam Amadou, mon mari Dubi Sapo et Tati. Yo handero, waran ko Dubi Tati bere tamno si pandiam. Nous foutis si pour gondiam ano, mino no wada cede. Yo cede mi fuddi sippugo ndiyam mi do lara mi yan école mi warta suwi mi yaha mi tefa fa ndiyama mi wara fa glace mi tara be man no laari yahata wawatano sam suwi l'école ka suwi mi wari mi acci kadi mi acci l'école ka semde suwi ndiyam go bom do habda be man seɗɗa seɗɗa ban non ɓingel gorko feere wari o jokkiyam ɗo o fuɗɗim ɗo sippa essence be maako suwi banni man kadi jotta kam o acciyam mo wala fa sippugo essence be maako go wara do wara tan do wara asira asira do wara jaba cede amma kugal essence man bo habdu ko non ngam fajira goddo wurtan ya sipa wartu goddo ha asira 22h on lari kana
Le travail des enfants reste un frein pour l'avenir de ceux-ci, quand on sait que leur place est à l'école. C'est en allant à l'école qu'ils peuvent se faire un bel avenir, en acquérissant des valeurs comme le respect, la cohésion sociale, la solidarité et bien d'autres. Le travail des enfants reste et demeure condamnable. Écoutons quelques avis à ce sujet.
Alors, un bon père ou une bonne mère doit d'abord penser à l'avenir de son enfant. L'avenir ne se retrouve pas seulement dans la rue, le genre envoyer des enfants avec de l'eau, communément appelé Sahel, là, que, vendre sous le soleil, travailler dans les chantiers pour avoir de quoi survenir à ses besoins. Ce n'est pas de ça que nous devrions dire ça, c'est le succès d'un enfant. Alors, pour bien fonder l'avenir d'un enfant, c'est d'abord penser à son avenir du côté scolaire. Inscrire un enfant à l'école, bien le suivre et aussi l'éduquer d'une bonne manière, quoi, appuyé avec la parole de Dieu.
Évident, pour les travaux des enfants, ou alors le travail des enfants, on ne peut que s'opposer parce qu'à cet âge, l'enfant devrait être à l'école, en train d'apprendre, en train de s'éduquer, en train d'acquérir certaines valeurs et principes qui lui permettront de devenir des hommes intègres et des hommes capables de mener leur vie comme il se doit, avec des valeurs et ses principes, alors que lorsqu'il se met à travailler comme les enfants qu'on voit dans la rue en train de vendre, je pense que c'est pas une activité idéale pour l'enfant de vendre ou alors d'aller travailler, puisque ce n'est pas une activité appropriée pour son âge. Il devrait plutôt se trouver dans les écoles ou alors à la maison en train d'aider les parents ou d'acquérir certaines valeurs auprès de leurs parents.
Moi, je pense que les enfants qui se promènent dans la rue avec des marchandises ou à derrière les pouces, c'est pas beau à voir. Ces enfants, pendant que d'autres enfants vont à l'école, eux, ils sont là derrière les pouces, derrière les brouettes, en train de marcher avec les seaux pour vendre soit de l'eau, soit d'autres marchandises. Et ce que je constate est que quand on voit ce genre de choses, les parents, je ne sais pas si les parents se sentent à l'aise de voir leurs enfants se promener de la sorte. Mais sinon, c'est vraiment mauvais de faire traîner les enfants dans la rue et retarder leur avenir.
Enfants de la tranche de moyen âge, de 3 ans en montant à 10 ans, là, ce n'est pas normal qu'un enfant, tu vois un enfant en train de vendre les emballages enroulés, tu ne vois même pas l'enfant qui vend les emballages, mais tu vois comment l'emballage ne fait qu'avancer. Chers parents, la place de nos enfants, c'est à l'école, mon petit frère, c'est à l'école. Kidnapper d'enfants, vous n'êtes pas au courant. Quand on va kidnapper l'enfant, c'est où on ne même pas les sorciers au village souffrent, même les sorciers là souffrent. Pardon, la peur de nos enfants, c'est à l'école, sensibilisons nos parents.
Pour ma part, voir les enfants, les petits-enfants dans la rue, vraiment, c'est déplorable et ce n'est pas du tout bon. Quand tu vois un enfant, les enfants d'environ 6, l'intervalle 6 à 10 ans, ils sont encore des enfants et tu les vois, ils sont torturés souvent. Quand on essaie de parcourir les artères de la ville, on voit leur patron, ou bien les femmes ou bien les hommes avec qui ils travaillent, les torturent, les maltraitent. Et il y a encore d'autres catégories de jeunes, ils sont vraiment torturés, maltraités et tout. Et en plus de cela, ces enfants font face à plusieurs problèmes. Hein? Peut-être un enfant de 6-7 ans qui vend l'eau, il peut rencontrer comme ça des individus mal intentionnés et ils peuvent ainsi lui faire du mal. Soit même le voler ses petits sous qu'il a sur lui. Oui, et tout ça, vraiment, c'est pas du tout bon. Et on se demande si ces enfants-là ont des parents ou bien s'ils sont des orphelins, on ne sait pas trop. Mais vraiment, il faut dire, c'est pas du tout bon.
Madame, Monsieur, auditeurs et auditrices de Radio Océré, le temps imparti à cette émission d'Interligne est arrivé à son terme. C'est avec un immense plaisir que nous étions donc en votre compagnie. Nous avons parlé dans Soir au village de la culture Mandara, de ses rites et de ses traditions dont tape à l'œil. Les uns et les autres se sont prononcés au sujet des préférences de taille et d'envie de ton sac. Nous avons parlé, nous avons condamné le travail des enfants de moins de 14 ans. L'équipe en charge de la production de cette émission était composée de Maxino à la partie technique, David Bayan à la coordination et à la présentation l'idole Wawa. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Retenez que la culture, c'est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu.